un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Ça n'arrive pas souvent, mais c'est comme ça que ça s'est passé cette fois. Un coup de fil d'une amie d'amis. Une jeune femme qui me demande si elle peut raconter son histoire. Parce qu'elle veut agir, ne pas rester les bras ballants à subir, prévenir aussi d'autres victimes potentielles de l'homme avec lequel elle vient de vivre et dont elle attend un enfant. À ce moment-là, je ne sais pas encore que ce récit va m'occuper, en plus des pieds sur terre, pendant les 7 ans à venir. Pour l'heure, je rencontre Marianne, que j'appelle d'abord Daphné, et qui me raconte des faits qui auraient pu vous arriver aussi bien qu'à moi, mais qui ont fait tout chavirer, toutes ses certitudes et sa perception du réel, et l'ont laissé sonner, abattu, sans dessus dessous. Jusqu'à ce qu'elle décide de s'en emparer et de reprendre les rênes, de parler pour faire quelque chose d'irréversible, pour écrire une fin à ce qui lui était arrivé. Et puis après, mais longtemps après, elle m'a confié un dossier et des documents, et j'ai cherché à rencontrer les autres protagonistes de son cauchemar, mais ça, c'est une autre histoire, dont voici néanmoins le point de départ, que j'ai appelé l'homme aux 1000 visages, même si en vrai, il n'en a qu'un, comme tout le monde.
Donc, en janvier 2015, je rencontre quelqu'un sur un site de rencontre américain dans lequel il y a beaucoup de personnes du monde entier avec qui on peut discuter. Et je commence à discuter, à échanger avec un homme qui venait d'arriver à Paris depuis un an. Il s'appelle Alexandre, il a 36 ans, médecin chez MSF, qui est brésilien d'origine, qui a fait ses études un peu au Brésil, qui a après travaillé presque 10 ans dans différents sites chez MSF en Afrique, qui là-bas a rencontré un Français qui est devenu son meilleur ami. Et puis, au bout de 10 ans, il était un petit peu lassé de cette vie assez difficile dans les campements MSF avec son sac à dos, en changeant de... sans vie stable, en fait. Souhaite suivre son ami français qui ne renouvelle plus son contrat et qui rentre en France. Donc, et qui l'invite à venir avec lui. Donc il a décidé de faire une autre partie de sa vie en France. Donc il parle bien français. On a échangé, oui, pendant 6 mois, on va dire. Voilà, donc 6 mois après, cet échange est devenu beaucoup plus intense. On s'écrivait vraiment tous les jours et puis on a décidé de se rencontrer. On s'est rencontrés à Montmartre, dans un café, où et puis il m'invitait à manger. Je me suis dit, oh, ça doit être un dragueur, c'est un peu un Latin lover, il est trop galant, mais galant dans un sens amoureux, enfin un peu too much. Mais c'est quelqu'un de très posé, très doux, très attentionné envers les autres. Il était bien habillé, il était quelqu'un de soigné. Il avait un côté un petit peu, fils à papa peut-être, un peu de bonne famille, comme ça. Mais il me parlait beaucoup de sa famille. Il avait un père qui apparemment était très présent dans sa vie, 3 sœurs, et une mère qui était malade, qui avait un cancer, donc il allait voir. Donc on se revoit plusieurs fois, de manière platonique. Même si lui me fait rapidement comprendre qu'il a des sentiments pour moi et qu'il aimerait que notre relation aille plus loin. Et parallèlement, il me raconte qu'il a pu trouver du travail dans un hôpital Louis Mourier à Colombes, dans la ville de Colombes. Il fait de la chirurgie thoracique. Voilà, notre relation se développe où il finit par me toucher d'une autre manière, parce que c'est quelqu'un de très sensible, de très intelligent et qui a des valeurs qui me touchent beaucoup. C'est vraiment par ces valeurs que je tombe amoureuse. La fois où vraiment j'ai baissé toutes mes armes, c'est que il est venu chez moi, m'a rejoint, et il dit, écoute, je pense qu'il y a quelque chose d'important dans ma vie dont il faut que je te parle. Quand j'avais 20 ans, j'avais une petite amie qui avait 19 ans, on est sortis en boîte de nuit, on a beaucoup bu, et en rentrant on a pris la voiture, c'est moi qui conduisais, j'étais ivre, on a eu un accident de voiture, et j'ai tué une personne Et ma petite amie est morte aussi. Ça a été très difficile. Ça a changé toute ma vie parce que j'ai ces morts sur la conscience, en me disant en plus que il a toute la famille de sa petite amie qui le déteste à tout jamais, qui ont beaucoup essayé de lui nuire après, que c'est aussi pour ça qu'il a fui le Brésil. C'est une histoire très forte. Il me la raconte sans pleurer, mais ça me transperce le cœur, ce qu'il me raconte. À partir du moment où on se rencontre, ça va très vite. Et il me dit qu'il veut se marier, qu'il veut fonder une famille, et que c'est vraiment un but dans sa vie, que le fait que sa mère soit malade, c'était un passage dans sa vie. Au bout d'une semaine où on est ensemble, sa mère tombe subitement dans le coma suite à la chimiothérapie. Elle tombe dans un coma qui dure 3 jours et au terme duquel elle décède. Donc c'est vrai que ça a été quelque chose de très violent, difficile à traverser. Donc il est parti une semaine, 10 jours pour les funérailles avec sa famille. Et c'est quand il rentre en fait qu'on apprend que je suis enceinte. Ouais. C'était une joie immense pour lui et pour moi. Il avait les mains qui tremblaient, il était euphorique complètement. Il appelle son père, il raconte à son père, à ses sœurs. Il a envie de faire plein de projets pour pouvoir accueillir cet enfant. Donc il se met à dire, il faut qu'on trouve un appartement. Il est extrêmement soucieux de ma grossesse. Très, très, très doux, très attentionné. Il parle tous les jours à mon ventre dès les premiers moments de grossesse. Et puis, il emménage chez moi. Il est souvent là. Donc c'est quelqu'un qui se lève à 5h du matin, qui part à 5h30 pour aller prendre son service à 8h à l'hôpital de Colombes, qui est assez donc loin d'ici, à 1h15. Et puis, il commence une formation aussi au CHU de Toulouse pendant 3-4 jours, tous les 15 jours. Voilà, il a des grosses journées de travail, évidemment. Et en même temps, dès qu'on a un peu de temps, on visite des appartements et on envisage le futur. Lui, en plus, il veut se marier. Surtout pour sa famille, en fait. Donc, on va à la mairie pour se renseigner, pour faire une préparation au mariage. En attendant, on va rencontrer mes parents. Donc, c'est quelqu'un qui fait l'unanimité. C'est quelqu'un que tout le monde adore. Mon père travaillait beaucoup dans l'aéronautique, il est pilote. Passe une après-midi avec lui, la fois qu'on est tous les deux, il me dit qu'il est vraiment épaté par son niveau de connaissance dans le technique en aéronautique, dans des détails de moteurs d'avion, dans des capteurs, des choses que personne ne connaît. Enfin, donc il est très surpris, très épaté en fait. Et puis, en revenant de chez mes parents dans le train, il met ses bagages dans les parties destinées à ça. Et puis, quand on arrive à la gare de Lyon, on arrive devant les tourniquets du métro, et puis il fouille partout et il se rend compte qu'il n'a plus son portefeuille. Dans lequel il y a sa carte de résidence, ses papiers d'identité, sa carte bancaire. C'est un peu compliqué parce qu'il faut refaire beaucoup de démarches, aller à la préfecture, refaire des demandes pour des papiers. En plus, c'est quelqu'un qui est d'origine hors Union européenne, donc il va un peu plus dépendre de moi. Voilà. Donc ce mois de décembre qui arrive. Il a beaucoup de travail, donc puis avec les formations à Toulouse. Donc à un moment donné, on ne se voit pas pendant 10-15 jours, pendant lesquels c'est difficile pour moi parce que j'ai un besoin de sa présence. Étant en plus enceinte, j'ai vraiment un besoin de nidifier, d'être chouchoutée aussi. Et puis ce soir-là, on ne s'était pas vu depuis longtemps, donc je me réjouissais beaucoup. Et finalement, il m'envoie un mot comme quoi il va encore être de garde et que finalement, il ne va pas rentrer. Je suis extrêmement déçue. Bon, j'essaye de le joindre sur son portable et comme j'y arrive pas, il m'avait donné en fait les numéros de l'hôpital où je pouvais le joindre en cas d'urgence par rapport peut-être à ma grossesse ou bien s'il y avait un souci. C'était au lendemain des attentats, il m'avait donné ses numéros de téléphone de sa famille, de son père, de ses sœurs. Donc j'appelle le numéro de l'accueil et on me dit il n'y a personne qui correspond à ce nom-là. Donc je me dis, bon, ben, est-ce que je pourrais parler à son collègue? Il s'appelle Jean-Yves. Et puis on me dit, mais non, mais il n'y a personne qui s'appelle comme ça. Je me dis, mais de quand datent vos listes? Alors effectivement, elles ne sont pas tout à fait récentes, donc elles ont plusieurs mois. Je me dis, bon, peut-être que les informations ne sont pas bonnes à l'accueil. Je vais appeler l'infirmerie du bloc opératoire directement, comme il me l'avait proposé, donc j'avais aussi le numéro. Et j'appelle et il y a une erreur, c'est un faux numéro. Donc je compose le numéro fixe de son père au Brésil, à Rio, et il ne fonctionne pas. Et puis j'appelle les numéros de ses sœurs, et aucun ne fonctionne. J'étais vraiment perdue, c'est-à-dire que je savais pas quoi imaginer, je savais pas quoi penser. Je me suis dit peut-être qu'il n'avait pas le poste qu'il m'avait dit avoir. Peut-être que c'est un interne et que par orgueil, il a peut-être pas osé me dire ça. Et le lendemain matin, j'ai appelé mes parents pour leur faire part de mes interrogations. C'est pas une démarche qui est dans mes habitudes. Mon père m'a dit, bon, bah, il laisse son meilleur ami et médecin cardiologue. Voilà. Et donc, il a dit, écoute, je vais lui demander d'appeler l'ordre des médecins. On va vite savoir. De toute façon, il n'y a aucun moyen qu'il puisse pratiquer sans être inscrit à l'ordre. Donc, le week-end se passe. Il se trouve que c'était mon anniversaire à ce moment-là et il ne rentre pas. Donc, le lundi, j'ai décidé de faire mes comptes pour faire exactement l'état des lieux précis de l'argent qu'il me prenait. Et en regardant mes comptes, je me suis rendu compte qu'à chaque fois avant de partir à Toulouse, il prenait du liquide, 100, 200 euros. Et je me rends compte que autant il peut avoir un usage de la carte bancaire très banal quand il est sur Paris, pour un ticket de métro, 1,20 euros, dans un kiosque, un journal. Et puis autant, depuis 6 mois qu'il est à Toulouse, il n'y a jamais un seul retrait à Toulouse. Donc là, je me dis, en fait, il n'est jamais allé à Toulouse. Et il prend du liquide à chaque fois avant de prendre l'avion, c'est qu'il va à un endroit où il ne veut pas que je sache qu'il va. Et donc, je prends mon ordinateur sur lequel il avait une session pour son usage, pour qu'il puisse parfois l'utiliser. Et je regarde sa session, je me décide à fouiller son... Et je vois rien d'anormal. Tout était complètement nickel. Il y avait ses documents de travail, de médecine, il y avait ses photos de l'hôpital, il y avait enfin sa vie normale. Et puis je me rappelle que quand même avant que je lui ouvre une session, il arrivait de prendre quand même mon ordinateur de temps en temps. Donc je me dis, je vais quand même regarder dans ma session. Et en fait, ma session qui avait la particularité de mémoriser tous les mots de passe, a du coup mémorisé tous les mots de passe qu'il a rentrés. Et donc je peux rentrer dans ses comptes mail, comptes Facebook. Donc je regarde l'historique. Là, je découvre qu'il a beaucoup de différents noms d'utilisateurs. Donc il s'appelle parfois Alexandre, parfois Alexander, parfois Ricardo, parfois Carlos, parfois Jérémias, parfois Daniel. Et plus je rentre en profondeur dans ces documents, et plus je me perds. Parce que je me rends compte que quand il s'appelle Daniel Saavedra, il est argentin, il a pas de frères et sœurs, il a un père cheminot qui est de Buenos Aires, il a une mère d'origine espagnole. Quand je veux voir sur un autre compte, il est marié à une américaine, il est d'origine portugaise, ou il est espagnol. Il y a des choses dans beaucoup de langues. Je me rends compte qu'il a plusieurs autres foyers. Et je comprends qu'en fait, si depuis 15 jours il n'est pas rentré, c'est qu'en fait il est bloqué financièrement à Cracovie avec une de ses autres femmes, avec laquelle il vit depuis au moins aussi longtemps que nous, qui, elle, je le comprends, pense qu'il est médecin dans un hôpital à Wrocław, alors qu'eux-mêmes habitent ensemble à Cracovie. Voilà, je me rends compte qu'il y a deux femmes en Pologne, je me rends compte qu'il y a des femmes dans le monde entier, en fait, qu'il a peut-être 15 femmes en même temps. Je me rends compte qu'il a un enfant à Buenos Aires avec une femme argentine. Je me rends compte que parfois il dit qu'il est ingénieur, que parfois il est médecin, que parfois il est photographe, que parfois il est militaire aussi, danseur, que parfois il est... Et à chaque fois, chaque identité est extrêmement précise, extrêmement détaillée. En fait, je ne savais pas comment il s'appelait, je ne savais pas quelle était son origine, je ne savais plus rien sur cette personne avec qui je vivais, qui était le père du bébé que je portais. Tout était vraiment délité. Ce jour-là, je suis restée sur mon canapé avec l'ordinateur entre mes mains et j'étais sclérosée toute la journée. Et j'ai eu mon père au cours de la journée qui m'a dit « Écoute, on a trouvé personne de ce nom-là à l'ordre des médecins », ce qui m'a pas étonnée du coup. Et puis, je trouve sur un des comptes mail des échanges avec ce que je comprends être sa mère, qui donc n'est pas morte comme je le pensais, qui du coup est brésilienne. Elle a un autre petit enfant d'une dizaine d'années, qui son demi-frère, qui s'appelle Nicolas. Il me parlait toujours de Nicolas qui était son neveu. Enfin, il y a des choses qui se recoupent, il y a des prénoms qui se recoupent. Donc je trouve une mère extrêmement aimante, extrêmement soucieuse du bien-être de son fils, de son quotidien. Je me rends compte qu'il ment à sa mère tout autant que ce qu'il ment au monde entier, en fait. Je vois des photos de notre quotidien, sans moi, mais de notre environnement, qu'il envoie à sa mère en les commentant d'une toute autre manière. Par exemple, des photos d'une petite fille, d'un couple d'amis à moi. Un soir, on était allés chez eux, il avait demandé à donner le biberon à ce bébé. Et il me dit « Ah, prends une photo, je vais envoyer à mes amis. » J'avais pris une photo de lui en train de donner le biberon à ce bébé, et je retrouve cette photo envoyée à sa mère en disant « Bah voilà, la petite Claire et son papa. » Et je me rends compte au fur et à mesure des échanges avec sa mère que depuis le mois de juin, il fait croire à sa mère qu'il a une petite fille qui est née. On devait se retrouver 2 jours après en Provence chez mes parents pour les fêtes. Et j'ai rien dit. J'avais besoin d'avoir quelques éléments de réponse dans quelque chose qui m'apparaissait incompréhensible. Je me disais, je peux pas juste ne plus jamais le revoir alors que je sais même pas comment il s'appelle, qu'est-ce que je vais dire à mon enfant. Donc j'avais prévenu mes parents, je leur avais dit une bonne partie de ce que j'avais trouvé et je leur avais dit de bien vouloir me laisser faire en fait. J'avais quand même peur un petit peu de casser son monde en fait, c'est peut-être quelqu'un qui ne pourra pas le supporter. Les réactions peuvent être très violentes. Donc dès qu'on est arrivé, j'ai profité un petit peu du moment où il posait ses valises et il se relaxait un tout petit peu pour aller fouiller ses affaires. Et dans le double fond d'une valise, j'ai trouvé un passeport qui n'était pas la carte d'identité que je connaissais. Donc où il y avait une identité donc brésilienne, c'était un passeport brésilien. Et le fait qu'il soit si bien caché, ce passeport m'a fait penser qu'il était à sa vraie identité. Donc c'est vrai que c'était une semaine où je le regardais respirer. Et il était comme d'habitude au téléphone avec son travail, avec sa famille. Donc voilà, il y avait les coups de fil qui arrivaient de l'hôpital devant ma mère et moi. Avec
Comment il faisait pour faire sonner le téléphone ?
J'ai beaucoup de questions qui sont restées sans réponse. Je peux imaginer qu'il mettait des réveils avec des sonneries pour faire sonner son téléphone. Donc il parlait à personne. Quand il a appelé son père pour annoncer que j'étais enceinte, que là pour le coup j'avais enregistré à son insu parce que je trouvais ça joli de garder la trace de cet appel qu'il a fait devant moi et qui dure 20 minutes. Donc ce père n'existe pas. Et donc il est au téléphone avec personne, comme il était au téléphone avec personne quand il était avec ses sœurs. Il n'a pas de sœurs, et alors qu'il était toujours en ligne à la maison avec eux, ou les gens de l'hôpital. On a eu l'occasion d'être à des mariages avec des gens qui sont dans la santé. C'est-à-dire assez marrant parce que ce jour-là, à ce mariage, les mariés nous disent Tu sais, il y a notre amie qui est aussi chirurgienne thoracique. Elle est dans le mariage. À un moment donné, quand je la trouverai, je te la présenterai. Vous allez sans doute avoir des choses à vous raconter. Et puis, à un moment donné, quelqu'un fonce sur nous. Ah, on m'a dit qu'il y avait un autre chirurgien thoracique dans ce mariage. Je suis sûre que c'est toi. Elle l'a reconnu. La manière de se couper les ongles, les mains, c'est vraiment le chirurgien type, mais le cliché.
Il allait où la journée? Quand il partait, il allait où?
Je sais pas tout, je pense qu'il allait dans des bibliothèques pour travailler, pour étudier. Voilà, c'était quelqu'un de très érudit, qui au final parlait pas mal de langues, qui connaissait beaucoup de domaines. Et je pense qu'il travaillait vraiment les personnages comme un acteur, mais vraiment de manière profonde. Sinon, il n'arriverait pas du tout à leurrer tout le monde. Je pouvais trouver les favoris des sites où il allait. Par exemple, auprès d'une femme, il était ingénieur chez Peugeot. Alors j'ai trouvé beaucoup de documentation là-dessus. Il travaillait beaucoup, en fait. Mais il n'était pas médecin. Donc lors de cette semaine, j'ai pu récupérer des choses de valeur qu'il avait à moi. J'ai pu récupérer les doubles des clés de mon appartement. J'ai essayé de lui dire au revoir aussi. D'un côté, moi, j'en avais besoin. C'était aussi un moment difficile, forcément, pour moi. Il m'a dit qu'il remontait à travailler. J'ai dit oui, bien sûr. Il m'a dit je t'aime, tu vas me manquer comme d'habitude. Et moi, je savais que je lui disais au revoir pour la dernière fois là. Voilà, j'ai rien dit quelques jours, le temps de voir un avocat, voilà, qui m'a dit qu'il n'y avait pas grand-chose à faire d'ailleurs au niveau juridique. Et j'ai envoyé un message avant la nouvelle année parce que je me suis dit bon, il faut vraiment pas commencer une nouvelle année. Donc voilà, je lui ai dit que j'avais eu un mail anonyme qui le dénonçait et que je savais qu'il me trompait, qu'il était en ce moment à Cracovie, alors au moment où il y était. Et que du coup, j'avais appelé l'hôpital et que l'hôpital m'avait dit qu'il n'était pas médecin là-bas. Il s'en est toujours défendu. Et il a toujours essayé de rebondir en racontant d'autres histoires extraordinaires, ne sachant pas exactement la teneur de ce que j'avais trouvé. Suite à ça, je me suis surtout mis dans l'action. Donc j'ai récolté le plus d'adresses mail, de contacts, de numéros de téléphone, de femmes que je trouvais. Et j'ai envoyé de manière anonyme à toutes ces femmes un mail en anglais. Alors, il y a des femmes qui m'ont cru, qui m'ont remercié, il y en a qui ont permis de couper court avec lui, il y en a qui m'ont jamais cru, qu'il a réussi à convaincre que c'était de la diffamation contre lui, d'une ex jalouse. Et c'est là que j'ai compris aussi a posteriori pourquoi il m'avait raconté cette histoire d'accident de voiture avec la famille de cette petite amie qui lui en voulait à mort et qui faisait tout dès qu'il avait quelque chose pour détruire sa vie. Parce que je me suis dit, en fait, il avait déjà préparé, au cas où il y a des choses qui resurgissent du passé, il avait déjà préparé pour me dire, bah non, mais ça, tu sais, c'est la famille de cette petite amie qui essaie toujours de me détruire. Et donc j'ai compris qu'il faisait ça aussi avec d'autres. Donc quand ça le rattrape, il a déjà tous les outils en place pour dire, mais ça vient de là. Dans ces femmes, j'en ai rencontré en chair et en os, j'en ai rencontré par téléphone, on s'est écrit. Et notamment, j'ai rencontré une de ses ex-amies qui travaille en hôpital psychiatrique, qui est psychothérapeute, et qui a eu une histoire avec lui, sans jamais se rendre compte de rien. Elle m'a décrit quelqu'un qui ne ressemblait pas à la personne avec qui je connaissais moi, en disant que c'était quelqu'un avec un tempérament, une culture de Buenos Aires tout à fait typique, avec un tempérament plutôt emporté, quelqu'un de passionné, d'un peu hystérique, voilà. Alors qu'avec moi, c'était quelqu'un de très doux, de très... Je pense qu'il sait certainement, il ajuste en fonction des personnes qu'il a en face. Et je me rends compte surtout que les protocoles qu'il applique, il y a des choses qui reviennent toujours. Il a toujours perdu quelqu'un de très très proche au début d'une relation avec chaque femme. Soit c'est sa mère, soit c'est son père, soit c'est une sœur, un frère. Bien que les histoires familiales soient à chaque fois complètement différentes et complexes, ce qui entraîne, je le constate, beaucoup d'empathie. Ça lui permet de justifier des déplacements, des chamboulements de vie. Et là, je me rends compte que le fait d'avoir plein de femmes en même temps à qui il prend de l'argent, en fait, on ne se rend pas compte. Il prend de l'argent, mais des moments, il paye aussi des choses. Enfin, du coup, dans cet échange-là, on ne se rend pas compte qu'en fait, on est en déficit. C'est relativement bien calculé. Mais je me rends compte que l'argent n'est pas le moteur de tout ça. Alors oui, il m'a pris 1000 euros par mois. Donc forcément, s'il a 10 femmes à qui il prend 1000 euros par mois, c'est quand même pas mal. Mais non, il capitalise pas ça. Il le dépense aussitôt qu'il a. C'est-à-dire qu'en fait, il a besoin d'argent pour faire vivre son système. Mais il n'utilise pas ce système pour avoir de l'argent. Alors, je l'ai revu une fois. Il a débarqué en me disant qu'il était en bas de chez moi. Alors j'avais de toute façon fait changer les codes. Et il m'a demandé de rentrer ici. Donc j'ai fini par accepter d'aller à un café qui est juste en bas de chez moi. Et j'avais prévenu des proches qui habitent ici qu'il était en bas de chez moi, dans ce café-là, pour signaler où j'étais, au cas où. Donc quand il est arrivé, il se méfiait beaucoup. Enfin, il avait très très peur, en fait. Parce qu'il n'a aucun droit d'être sur l'espace Schengen. Il a des faux papiers européens, il n'a pas de visa. Et il est recherché au Brésil. Donc à ce moment où il est venu, il y a des voisins qui sont arrivés dans le café, donc il s'est senti tout de suite en danger. Et il a fait semblant de rien pendant 5 minutes, et finalement il s'est rapidement enfui. I know who I am and I know what I'm not. I know where I've been and I know what I've lost. But I can't stop this feeling I've got. Wasn't I looking, yeah, hadn't I heard? Didn't I see, didn't I learn? And I don't know what you mean to me, but I'm starting to think it's just a mystery. C'était L'homme aux mille visages, un reportage de Sonia Kronlund, réalisé par Emmanuel Geoffroy avec un coup de main de l'ISCO, mais diffusé pour la première fois en 2017. Merci à Martinette et à Marianne, attachée de production du Pied sur Terre. C'est Valentin Rémy. Notre stagiaire, c'est Nour Mohamedi. Et L'homme aux mille visages, c'est désormais un documentaire que vous pourrez voir en salle à partir du 17 avril et qui est en partenariat avec France Culture. May split. You may say that isn't it. I may be right, you may disagree. Same old star, same old me. And I don't know what you mean to me, but I'm starting to think it's just a mystery. I've got to admit it's just a mystery.